étendu. Donc prions et après ça on remet aussi le temps entre les mains du Seigneur. Alors Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu de toutes circonstances et de toutes situations. Et c'est toi Seigneur qui nous accorde encore aujourd'hui le souffle de vie. Nous voulons Seigneur tout d'abord bénir ta fille Marie-Huguette pour qui c'est l'anniversaire. Aujourd'hui que ta grâce lui soit accordée, qu'elle puisse sentir ta présence Seigneur, être inondée aussi Seigneur par ta grâce et par ta présence et par ton esprit. Répands sur elle Seigneur d'agréables surprises, des choses qu'elle reconnaîtra comme étant directement de ta main, directement de ton trône de grâce. Et nous appelons la bénédiction sur elle, sur ses filles, Gaëlle, Leïka, que tu puisses les bénir et que tu puisses te révéler, Seigneur, à notre sœur Marie-Huguette, mais aussi, Seigneur, à ses filles. Nous voulons de surcroît cela, Seigneur, prier pour la famille de notre frère Jacques Hilaire, tu vois, Seigneur, sa tante et son neveu qui sont décédés. On prie, Seigneur, pour toute la famille qui reste. Et on prie, Seigneur, que tu leur apportes la consolation, que tu leur apportes, Seigneur, cette paix qui dépasse l'entendement. Quand les moments sont faciles, c'est vers toi que nous nous tournons parce que nous savons que tu es notre pourvoyeur et notre protecteur. Mais quand les moments sont difficiles, c'est aussi vers toi que nous nous tournons, sachant, Seigneur, que tu es notre consolateur. Alors aujourd'hui, Seigneur, étends ta main sur ta fille Jocelyne, sur ton fils Jacques, et surtout l'ensemble, Seigneur, de cette famille qui est éprouvée, qui est endeuillée, qui est épleurée aujourd'hui. Que ta grâce, que ta présence les environne, que tu puisses, Seigneur, les entourer de personnes qui te connaissent et qui seront des instruments de bénédiction et de consolation pour eux. Merci, Seigneur, d'étancher, Seigneur, leurs pleurs, d'assécher, Seigneur, leurs pleurs. Et de faire en sorte, Seigneur, que ce temps de deuil soit aussi un temps, Seigneur, pour les uns et les autres, de réfléchir à l'avenir et de s'approcher du Sauveur, du Seigneur et de notre Roi, le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous bénissons cette famille et nous appelons, Seigneur, ta consolation parmi eux. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, Seigneur, on veut aussi te présenter cette semaine d'enseignement, cette semaine de dévotion. Tu vois, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur pour partager avec tes enfants, que cela trouve un bon terrain, une bonne terre, afin, Seigneur, de s'enraciner, mais que ce soit aussi l'occasion, Seigneur, de partager ces mêmes paroles et ces mêmes enseignements avec d'autres autour de nous. Des gens, Seigneur, qui prennent des décisions à ton égard, des gens, Seigneur, qui cheminent actuellement vers toi. Nous te demandons, Seigneur, révèle-toi à eux, parle-leur et convainc-les, Seigneur, de pécher et convainc-les, Seigneur, de se tourner vers le seul et unique Sauveur qui existe, Jésus, qui a été donné pour le salut de l'humanité. Alors nous prions que notre entendement soit ouvert et que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors comme je disais un peu plus tôt, cette semaine va être plus ou moins la suite de l'enseignement d'hier, ceux qui n'étaient pas à l'église, en fait, ceux qui n'étaient pas branchés sur la page Facebook ou sur les autres plateformes de l'église, on vous invite vraiment à réécouter la prédication d'hier. Vous la trouvez sur la page Facebook, bien sûr, sur la page YouTube et sur la page web de l'église. Si vous vous promenez un peu sur la page web, vous allez facilement la retrouver dans la section « À jour ». Prédication. Et là, vous allez avoir 2, 3, 4 formats, je crois, pour écouter ces différentes prédications. Donc, hier, on a parlé du Père et de l'accueil du Père face au Fils prodigue. Et le titre d'hier, c'était « Père d'un Fils prodigue ». Et on a ressorti 7 ou 8 caractéristiques de la vie du Père et de l'action du Père lorsque ce Fils revient à la maison. Mais Dieu a mis dans mon cœur cette semaine, pour notre méditation, d'aborder le thème « Le retour vers la maison » en s'arrêtant sur les paroles que le Fils prodigue va prononcer et en priant que ces paroles trouvent parmi nos auditeurs un cœur qui est effectivement dans ce cheminement vers Dieu. Et on prie que ce soit tout simplement un instrument entre les mains du Seigneur pour faciliter, pour sceller cette décision de retourner vers le Seigneur. La période de pandémie a été une période de remise en question pour nombre d'entre nous et aussi pour certains qui étaient peut-être en mauvais termes avec Dieu, qui s'étaient peut-être refroidis, éloignés. Donc on prie que ces enseignements de cette semaine soient pour eux et pour nous tous en fait une occasion de nous rapprocher de Dieu. Alors je vais lire pour vous dans Luc 15, le verset 18 et 19. Je vais le lire deux fois pour que ça pénètre dans mon cœur. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je répète, verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai: Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Malgré ces paroles qui peuvent sembler dures envers soi-même, les messages de cette semaine, c'est des messages d'encouragement. La bénédiction matinale se veut un temps d'encouragement. Et ne vous arrêtez pas aux phrases que, tout simplement, sans explication de ce texte, vous allez voir graduellement cette semaine combien ces phrases, oui, sont importantes, mais ce qu'elles suscitent et ce qu'elles amènent chez nous, qui est tout à fait bénissant. Alors aujourd'hui, je me lèverai, au début du verset 18, je me lèverai. Et se lever, c'est le terme grec anisthémie, qu'on retrouve 112 fois dans le Nouveau Testament. Je spécifie le Nouveau Testament, même si je ne serais pas obligé, puisque on sait que le Nouveau Testament a été écrit foncièrement en grec, avec une petite partie, le livre aux Hébreux, qui a été écrit en araméen. Mais sinon, l'ensemble du Nouveau Testament est écrit en grec, alors que l'Ancien Testament est écrit, bien entendu, en hébreu. Donc, anisthémie, qui arrive 112 fois, veut dire se lever, ou la traduction de Louis II va vouloir dire se lever. Mais comme j'ai fait la semaine dernière, j'aimerais juste prendre quelques instants pour fractionner ce terme dans le préfixe et le suffixe grec qu'il contient. Donc le préfixe, la première partie, anis, qui vient en fait du terme ana, ana en grec, qui veut dire un retour vers le haut, qui veut dire une reprise, une remontée ou aller en amont, aller vers le haut ou vers le devant. Donc ici, on est en train de parler vraiment d'un état, non seulement où on se lève depuis le sol et on se dresse, mais c'est aussi quelque chose qui nous pousse à aller vers le haut, vers le mieux, vers le meilleur et aussi une pensée qui est: on s'est éloigné et on revient là où nous devrions être. La deuxième partie, le suffixe, donc on a vu le préfixe, le suffixe, stémie. Stémie veut dire debout, se dresser et ériger. Donc, si on associe les deux, ani, stémie, ça veut dire un retour vers une stature debout. C'est comme si l'image qui est donnée ici du fils prodigue, c'est quelqu'un qui a été mis à terre par les circonstances, les situations et dans son cas, des décisions malvenues dans sa vie, des prises de décisions qui étaient mauvaises, des choix qui n'étaient pas les bons, qui ont amené cet homme-là à terre. C'est l'image qui est donnée ici par le nom, par le mot anisthémie. Mais la pensée ici, c'est qu'il y a possibilité, même si je suis à terre, de me relever. Et ça me ramène à un passage dans Michée, si je ne m'abuse, qui nous dit: Mon ami, si je suis tombé, mon ennemi, si je suis tombé, ne te réjouis pas, je me relèverai. Et ici, c'est cette même pensée, mais dans le Nouveau Testament. On est tombé, on a reculé, et là on prend une stature debout, on se relève, on reprend position. Alors, anisthésie peut, dépendamment où on le retrouve dans le Nouveau Testament et dans les phrases qui sont utilisées, on va avoir plusieurs utilisations. Anisthésie va se dire de quelqu'un qui est couché au sol et qui se met debout, quelqu'un qui serait étendu parce que blessé et on le relève, un peu comme la parabole du bon samaritain qui voit un juif au sol. Mais au lieu de le contourner parce que les Juifs et les Samaritains n'étaient pas amis, lui va s'arrêter, contrairement aux pharisiens, contrairement à un noble et d'autres personnes qui vont passer autour. Mais ce Samaritain qui est ennemi logiquement avec le Juif va quand même s'arrêter pour relever. On nous dit qu'il va mettre sur sa monture l'homme qui a été blessé par des brigands. Et cette pensée de relever, c'est cette pensée de anisthésie. Se dit de quelqu'un qui revient à la vie, quelqu'un qui ressuscite. C'est un peu la phrase que Jésus va utiliser lorsqu'il va parler à Nicodème en disant qu'un homme doit naître de nouveau pour être sauvé. Donc, passer du statut de mort au statut de vivant. Et c'est effectivement ce que le fils prodigue représente, puisque le père, lorsqu'il va parler à son fils aîné par la suite, et lorsqu'il va même parler à ses serviteurs, il va dire à tous, réjouissons-nous, parce que mon fils était mort et il est vivant, parce que mon fils était perdu et il est maintenant là, il est maintenant présent, il est maintenant vivant. Anisthésie se dit de quelqu'un qui se met à avancer, quelqu'un qui débute un parcours, se dit aussi de quelqu'un qui quitte un endroit pour aller ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il y a un cheminement à faire et qui fait le constat d'où il est aujourd'hui, qui se déplace vers un autre endroit. Se dit de quelqu'un qui se prépare à voyager, donc qui fait l'anisthésie, donc il fait ses bagages, qu'il prépare les différentes choses, les différents items propres au voyage qu'il s'apprête à exécuter. Et il y a une dernière définition, mais on va l'utiliser tout à l'heure pour notre conclusion. Donc, je vais faire ressortir 6 points essentiellement dans ce processus de je vais me lever. On se rappelle ici, c'est un fils qui a demandé à son père sa part d'héritage, qui est parti au loin, qui a dilapidé tout son argent, et prodigue, pour ceux qui ne le savent pas, veut dire tout simplement quelqu'un qui est dépensier, quelqu'un qui dilapide ses biens et son argent. Il n'y a pas une notion dedans, quelqu'un qui est désagréablement pécheur ou quelqu'un qui mène une mauvaise vie en soi. Prodigue veut dire simplement que la personne a des richesses et qu'il est dépensier et qu'il est en train de flamber ses richesses. Et c'est ça l'image de ce fils prodigue qui est allé au loin. Dans son cas, il a dépensé son argent, la Bible nous dit, avec des prostituées, en faisant la fête ou autre. Donc, il a dilapidé son argent et à un moment donné, lorsque l'argent n'était plus là, la famine est venue frapper le pays où il s'était, où il était parti, où il s'était mis à vivre et n'ayant faute de moyens, il est devenu esclave d'un maître et lui qui était juif a été même appelé à nourrir les pourceaux, les cochons. Je m'excuse. Et alors qu'il est en train de nourrir les pourceaux et qu'il n'est même pas en droit de manger la nourriture qu'il donne aux pourceaux, il commence à réfléchir à repartir vers chez son père et à fuir son état d'esclave dans lequel maintenant il est descendu pour revenir chez son père et œuvrer auprès de lui, non plus comme un fils, mais comme un mercenaire. Donc, le premier point, pour se lever, ben, il faut faire le constat qu'on n'est pas debout. C'est une évidence, mais cette semaine, j'aimerais m'assurer de ne pas passer à côté de choses qu'on pourrait penser comme étant très simples et comprises par tous. Je ne peux pas me lever si je ne constate pas que je suis à terre. Et c'est une prérogative ou c'est un point important dans notre restauration. Encore faut-il que je sache que j'ai besoin d'être restauré. Encore faut-il que je fasse le constat que je ne suis pas dans la position dans laquelle je devrais être. Et ici, ce fils qui est éloigné de son père, qui est parti en mauvais termes de chez son père, fait le constat que là où il en est rendu, il n'est pas au bon endroit et il n'est pas dans la bonne posture. On ne peut pas exécuter un retour vers le Seigneur ou un rapprochement de Dieu si on ne fait pas ce constat comme quoi nous ne sommes pas dans l'état dans lequel nous devrions être. Ce fils devrait être le fils d'un bien nanti, devrait être lui-même encore bien nanti, mais il se retrouve à ce moment-là dans un état d'esclave. Et combien de fois lorsqu'on quitte Dieu ou lorsqu'on s'en éloigne, combien de fois la Bible nous dit de toute manière que nous revenons à un état pire qu'avant d'avoir connu Dieu. Combien d'entre nous, lorsqu'on s'est éloigné du Seigneur, on s'en est éloigné pour aller faire des choses, aller commettre des actes, aller participer au péché de façon pire même qu'avant que nous l'ayons connu. Donc, le premier point, faire le constat que nous ne sommes pas debout. Je ne peux pas me relever si je ne suis pas conscient que je suis à terre. Deuxième point, c'est faire le constat que les choses doivent changer. Parce que certaines personnes sont à terre, mais n'ont pas nécessairement ni le désir, ni la conscience que les choses doivent changer. Ils se contentent de l'état dans lequel ils sont. Mais pour faire un retour vers Dieu, pour réintégrer les voies de Dieu, il faut encore comprendre et saisir qu'il y a des choses qui doivent changer. Non seulement je fais le constat que je ne suis pas dans l'état dans lequel je devrais être, mais je fais aussi le constat que pour revenir à cet état, pour revenir à la maison, il y a effectivement des choses qui vont devoir changer. Alors, oui, si actuellement tu es dans ce processus de t'approcher de Dieu, assurément, il y a des choses qui vont devoir changer. Mais il y a une différence, et ça sera mon troisième point, il y a une différence entre faire le constat que les choses doivent changer et prendre la décision que les choses vont changer. Certaines personnes regardent les choses autour d'eux, font un constat qui est tout à fait honnête, comme quoi je ne suis pas dans l'état où je dois être, les choses qui m'environnent ne sont pas celles de Dieu, mais ils n'arrivent pas à prendre la décision, ils ne viendront jamais à prendre la décision de changer les choses et d'abandonner les choses. Donc si je veux me relever, ben oui, il va falloir que je constate que je suis à terre, il va falloir que je constate qu'il y a des choses qui doivent changer, mais il faut encore que je prenne la décision, que j'initie même cette décision de voir les choses changer. Je peux aussi me relever, mais aller pire. Je peux me relever et aller encore plus profondément dans le péché. Donc c'est une chose de prendre la décision que les choses changent, mais encore faut-il prendre la décision de retourner à la maison. Toute cette semaine, on va vous inviter effectivement à retourner à la maison. Je vais vous tutoyer parce que j'aimerais que ces paroles puissent s'adresser vraiment de façon spécifique à chacun de vous. Cette semaine, on va t'inviter à rentrer vers la maison, à retourner vers la maison de Dieu. Et je parle, oui, de l'Église, oui, mais je parle surtout de la personne de Dieu. Cette semaine, on va t'inviter à retourner vers ton Père, vers ton Père céleste. Et retourner vers lui, c'est une décision. Peut-être durant la semaine, j'aurai l'occasion de vous dire comment moi, à une certaine époque, je me suis éloigné de Dieu. Mais mon départ de Dieu était un choix, était une décision, un peu comme tous les péchés qu'on commet, un peu comme toutes les voies qu'on suit. On décide d'emprunter une voie. On n'est peut-être pas conscient du danger, on n'est peut-être pas conscient de l'endroit où cela peut nous mener, mais c'est quand même une décision d'entreprendre un cheminement. Et c'est aussi une décision d'entreprendre un cheminement vers Dieu. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un vient à Christ, on lui dit de prendre une décision envers Dieu, de choisir le Seigneur, d'accepter Jésus. Tout ça, tout simplement pour dire que c'est une décision que je fais de prendre Jésus comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Mais quand je retourne vers Dieu, j'ai aussi une décision un peu similaire à prendre. de décider de retourner vers notre Seigneur. Ce fils-là prend la décision, il dit, voilà ce que je vais faire, je vais me lever et j'irai vers la maison de mon père. Je vais me lever, je prends la décision que je vais me lever, mais je vais me lever pas pour rien, pas pour m'en aller ailleurs, je vais me lever pour aller, pour retourner à la maison. Cinquième point, après avoir fait le constat qu'on n'est pas debout, fait le constat que les choses doivent changer, avoir pris la décision que les choses doivent changer et pris la décision de retourner vers la maison, ben, le changement qui va être marqué ou qui va nous amener à nous démarquer de certaines choses, ben, c'est moi qui l'initie. J'aurais beau prier que le Seigneur puisse séparer de moi telle ou telle chose, mais à la base, c'est moi qui dois abandonner ces choses-là. Je pourrais prendre la décision ou prier que Dieu éloigne toutes les tentations, mais à la base, c'est moi qui décide de céder ou de ne pas céder à la tentation. Et cette décision-là, personne d'autre que moi, je peux la prendre. Au même titre, la décision de m'approcher de Dieu, il n'y a personne qui peut la prendre à part moi et dans ta vie, à part toi. Dieu même ne peut pas prendre cette décision pour toi. Parce que s'il prenait la décision pour toi, ça serait te tordre le bras, manipuler ta pensée, manipuler ton esprit et te forcer à lui. Et Dieu est tout à fait un gentleman. Une des choses qui démarque l'humain par rapport à l'ensemble de la création, c'est cette capacité de réfléchir et cette capacité de décider. Il y a une chose que Dieu a placée en toi et en moi depuis la création qui s'appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre fait que je prends des décisions. Je choisis de m'approcher ou de m'éloigner de Dieu. Je choisis de rester ferme dans les voies de Dieu ou je choisis de m'en départir. Et tu dois comprendre que le cheminement dans lequel Dieu veut, oui, t'aider et dans lequel Dieu va te soutenir, assurément, et dans lequel les hommes autour de toi, l'Église, les frères, les sœurs, peuvent effectivement t'aider, mais à la base, ce cheminement et cette décision de nous approcher de Dieu, elle est entre tes mains, comme pour ma vie, bien, cette décision est entre mes mains. Donc, c'est une décision de se lever, d'initier un changement, de dire, ben, mon état, mon statut, ma condition n'est pas celle qui devrait être. Et je vais prendre la décision que les choses vont changer. Et ce faisant, je vais abandonner certaines choses. Il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas ramener à la maison avec toi. Ce fils-là qui est allé à l'étranger, mais peut-être qu'il a commencé à mélanger des pratiques dans sa vie qui ne vont pas avec la maison de son père, qui ne vont pas avec les pratiques de chez son père. Puisqu'il était dans un pays étranger, peut-être qu'il a commencé à adorer des idoles. Mais s'il retourne vers chez son père, et si nous on retourne vers notre père, bien on sait qu'on ne peut pas mélanger les pratiques entre ce que Dieu appelle saint et ce que Dieu déclare comme étant péché. Donc oui, il y a des choses qui doivent être abandonnées. Il y a des choses avec lesquelles on doit couper lorsqu'on revient et lorsqu'on va vers Dieu. Et ça peut être demandant, ça peut être douloureux. Il y a un statut que ce fils avait, peut-être dans un pays étranger pendant un certain temps, parce qu'au départ, il était bien nanti. Mais là, il retourne chez son père, humble, humilié peut-être par la vie, brisé par la vie. Mais il y a des pratiques qui ne l'amènent pas. On nous dit qu'il a dépensé son argent avec les prostituées. On s'entend que s'il revient à la maison, ce n'est pas pour continuer dans ces voies-là. C'est pour entreprendre un autre cheminement. Alors je prie que ta décision puisse aussi inclure cette marque, ce départ et cette marque initiale de changement en te démarquant de certaines choses dans ta vie. Et je prie que Dieu t'assiste et te soutienne là-dedans. Et je comprends que ça peut être douloureux dans certains cas. Je comprends que ça peut être pénible dans certains cas. Mais un retour vers Dieu, un rapprochement vers Dieu va nécessairement impliquer que tu te démarques et tu abandonnes certaines choses du passé. Et enfin, c'est le point merveilleux pour aujourd'hui, je dirais. Anisthémie, qu'on a vu tout à l'heure se lever, a un sens tout à fait unique aussi. Et il se dit du roi, du prophète ou du leader qui se présente à la foule. Un peu comme le roi qui succède à un autre roi et qui est intronisé pour la toute première fois et qu'on présente à la foule. Peut-être dans quelques années ou dans quelques mois, là, parce qu'elle commence à être âgée. À un moment donné, on va voir le prince Charles, qui est un prince aujourd'hui, mais qui va remplacer sa mère, la reine Élisabeth. Et le jour où le prince Charles va prendre la suite, ben, on va le présenter. Il va se présenter à la foule, et c'est le terme anisthémie. Un peu comme lorsqu'un président américain est élu, il y a l'élection au mois de novembre et il y a l'investiture au mois de janvier. Et à l'investiture, on présente le nouveau président élu ou le nouveau président élu se présente. Un peu comme un premier ministre qui est élu ici. Lorsqu'il est élu, c'est pas tout de suite qu'il prend le pouvoir. Il y a une certaine transition qui s'opère jusqu'à ce qu'on puisse le présenter. Et Dieu rêve de te présenter. Dieu rêve depuis toujours de te présenter comme un de ses fils, comme un leader spirituel, comme un prince dans le royaume de Dieu. Parce que si effectivement Dieu est ton père, ben ça fait de toi un prince. Et ce fils prodigue qui s'est éloigné des voies de Dieu et qui est devenu esclave, lorsqu'il retourne à la maison, et on en a parlé hier, le père va le rétablir avec le manteau, son manteau, ce manteau qu'il a abandonné lorsqu'il a quitté la maison. Le père va mettre une bague à son doigt, et cette bague, c'était l'effigie de la famille, c'était le sceau de la famille. On est en train de rétablir ce fils devenu esclave et on le rétablit comme fils. On met des chaussures à ses pieds pour briser son statut d'esclave et dire cet homme-là a été affranchi de ses méfaits, a été affranchi des dettes qui lui incombaient, a été affranchi du passé qu'il traînait et il est de nouveau un fils. Je rêve qu'il se passe l'anisthémie pour toi. Je rêve de te voir reprendre ta place de fils et de fille du roi. Alors ce matin, je t'inviterai simplement, ne reste pas où tu es. Tu n'es pas là où Dieu voudrait que tu sois. Dieu te veut à la maison. Et tu as le souffle de vie qui t'est encore accordé aujourd'hui. Et tu sais que foncièrement, la vie que tu mènes n'est pas celle que Dieu a pour toi. Alors je t'invite, prends cette décision de te lever. Prends cette décision d'aller vers la maison du Père. Prends cette décision de retourner à la maison. Et le courage qui doit venir avec cette décision, d'abandonner les choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu va t'aider dans ton cheminement. Et en tant que pasteur, mais aussi en tant que frère et sœur, en tant que congrégation, hier on a été très clair, on comprend que c'est notre devoir aussi de t'accueillir à la maison, et on comprend que c'est notre devoir aussi de faciliter ton retour. Et je n'ai aucun doute que tu trouveras à la maison ces personnes pour t'aider, pour te soutenir et pour t'encourager. Mais je prie, ne reste pas là où tu es, reviens à la maison, ça a assez duré. Et sois le fils, sois la fille du roi que tu as toujours été appelé à être. Alors laisse-moi prier pour toi ce matin. Seigneur, cette semaine nous prions et nous adressons spécifiquement à ces hommes et ces femmes, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui se sont éloignés de toi, ou ceux qui viennent à peine de te connaître et qui ont entrepris, Seigneur, ou qui ont pris cette décision de se tourner vers toi. Nous scellons cette décision par ton sang précieux et nous prions, Seigneur, que cette décision soit ferme et que notre bien-aimé, cet homme, Seigneur, cette femme, ait le courage qui doit venir avec cette décision de se tourner vers toi. Donne-leur la force, Seigneur, d'abandonner ce qui doit être abandonné Donne-leur la force de marcher vers toi. Et permets-nous à nous, Seigneur, qui les voyons arriver et venir, de les accueillir, Seigneur, comme ce fils qui revient à la vie, comme cette fille qui revient à la vie, comme ce prince, comme cette princesse qui revient dans le palais. Que ta grâce leur soit accordée. Que l'hardiesse de faire la décision, de prendre cette décision et de la mettre en action, puisse les habiter, ô Dieu. Et je les bénis ce matin. Continue à arroser cette parole par ton esprit, afin qu'elle puisse croître et qu'elle puisse être, Seigneur, suivie de décisions concrètes dans la vie des uns et des autres. Nous les bénissons et nous interdisons à l'ennemi de venir voler quoi que ce soit de ce qui a été dit ce matin. Que ta grâce nous accompagne et nous soutienne. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, permettez-moi de saluer quelques personnes. Je vais voir qui s'est joint à nous depuis tout à l'heure. Je vais certainement en rater quelques-uns, mais je crois que j'avais déjà salué la sœur Sainte-Mec, Andrés, oui. Bonjour Nadia, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Nadia. Bonjour Lalande, Dieu vous bénisse. Lalande et toute sa famille sont des bien-aimés de l'Église de Narbonne. Donc, on est content de vous avoir avec nous. Adriana, bonjour. Flori, bonjour. Bonjour au frère Louis aussi. Mayakat, bonjour. Alex, salut, Dieu te bénisse. Manuel, sois béni. Yvelin, sois béni. Diane, sois béni. Et je crois que c'est tout pour ce matin, pour ceux qui nous ont rejoints. On salue tous ceux qui étaient connectés via les autres plateformes et on ne vous voit pas. Mais soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et à vous tous qui êtes au loin de la maison, ne tardez pas, on vous attend à la maison, on veut vous voir à la maison et on se réjouit d'avance de vous revoir. Alors simplement rappeler les annonces d'hier, ce soir il y a étude biblique sur le livre de l'Apocalypse avec le pasteur André, vous pouvez vous connecter dès 19h pour ce temps d'étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. On se retrouve donc à tous les matins jusqu'à vendredi à 8h30 pour nos bénédictions matinales. Mercredi soir, nous aurons l'étude biblique avec le pasteur Sergio, étude biblique sur la thématique « Servir Dieu en période de défi ». Donc, tout à fait approprié pour ce que nous vivons actuellement. Les jeunes, j'ai rendez-vous avec vous vendredi à 20h pour une session Zoom, donc avec tous les jeunes. Mais juste avant, je serai bien sûr à mon rendez-vous avec chacun d'entre vous pour notre soirée de prière et d'intercession vendredi. Donc, programme double pour le pasteur vendredi à 7h sur Facebook de l'Église avec vous tous pour la prière et intercession et à 20h avec les jeunes gens pour notre assemblée jeunesse. Nous avons annoncé hier que le déconfinement commence. Voici les règles. On a simplement 50 personnes qui ont le droit de venir et ça inclut l'équipe technique. Donc, quand on calcule qu'il y a une quinzaine de personnes qui font partie de l'équipe technique, ça veut dire qu'il reste environ 35 places. On s'attend à ce qu'il y ait des modifications, qu'on élargisse le nombre de personnes ayant le droit de venir. Mais pour l'instant, on a donc décidé de fonctionner par réservation et les réservations sont limitées à deux groupes de personnes. Donc, les personnes seules qui ont 55 ans et plus, donc les personnes célibataires qui ont 55 ans et plus, et les couples âgés avec une des personnes qui est âgée au moins de 65 ans. Donc, couple avec un participant qui est au moins de 65 ans en montant. Pourquoi on a fait cette décision? Tout à fait arbitraire, mais on pense que c'est le Seigneur qui nous a mis à cœur de faire ainsi. On croit que dans l'ensemble de cette pandémie, ceux qui ont le plus souffert de la pandémie étaient effectivement nos aînés, Donc on veut les honorer, on veut les bénir et on veut les encourager. Donc les couples âgés, venez. Et pour tous les célibataires qui étaient, donc les personnes qui vivent seules, ont eu de la difficulté, là, ont eu des temps difficiles. Donc si vous avez, vous correspondez à ces règles qui nous sont imposées ou qu'on a imposées. Donc 55 ans et plus pour les célibataires, et puis 65 ans et plus pour les couples mariés. Donc on vous invite à être là dès ce dimanche. Comment vous réservez? Vous appelez à l'église au 273-8295 dans le 514. Donc 514-273-8295. Vous laissez un message sur la boîte vocale avec votre nom, votre numéro de téléphone. Chacune des personnes qui vient doit appeler pour réserver. À part si c'est un couple, vous dites nous sommes un couple, mais à part si vous êtes célibataire, chacune des personnes doit appeler. Et vendredi, on confirmera avec vous tous les personnes qui ont le droit de venir. On s'attend à ce qu'il y ait plus de demandes que de places disponibles. Donc, on vous demande d'être conciliant avec nous. Et si en cours de semaine, le nombre autorisé devait s'accroître, on s'attend en fait que ce soit le cas. Donc, on augmentera. Mais sinon, on va recevoir environ 35 personnes. On vous demande aussi, quand vous allez venir, d'apporter votre masque. Les masques vont être obligatoires pour toutes les personnes qui sont assises dans le sanctuaire. Le seul endroit où les masques ne seront pas de rigueur, ce sera lorsqu'on sera sur la tribune en train d'officier. Donc, la personne qui dirige les chants, il y en aura juste une. Il n'y aura pas de choriste parce qu'on n'a pas le droit actuellement de chorale ou de choriste. Et il y aura quelques musiciens. Donc, les personnes qui sont sur la tribune, prédicateurs, traducteurs, annonces ou autres, n'auront pas de masque, mais dès qu'on est assis dans la salle, on porte un masque. Donc, 55 ans et plus pour les personnes célibataires, 65 ans et plus pour les couples, et puis port du masque obligatoire, et vous verrez à vous conformer aux différentes directives lorsque vous serez sur place. Vous appelez au bureau de l'église, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, 514-273-8295, et on vous confirme vendredi si on peut vous recevoir ou quoi. Donc sur ce, que Dieu vous bénisse. J'ai été content d'être avec vous ce matin et je le répète encore, c'est le temps de retourner à la maison. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous. Encore une fois, joyeux anniversaire à Marie-Huguette Tania Queen de son pseudonyme. Que Dieu la bénisse abondamment. On se retrouve ce soir avec le pasteur André pour l'étude biblique et demain matin pour notre temps de bénédiction matinale. Bonne journée à tous!